Bonsoir. Arrêter l'escalade militaire en Libye, les ministres des Affaires étrangères du G7 réunis en France appellent le maréchal Haftar à stopper son offensive sur Tripoli en respectant le processus politique engagé par l'ONU. Des gilets jaunes au pied de la Grande Arche à la Défense à Paris dans le calme, le 21e épisode du mouvement aura connu une faible mobilisation et se sera déroulé partout en France sans incident majeur. Dans ce journal également, le chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido qui mobilise à nouveau ses partisans pour maintenir la pression sur le président Maduro. Obama en vedette face aux jeunes Allemands mobilisés sur le climat. La douche froide pour les Lyonnais en Ligue 1 de football. Les Lyonnais battus 3-1 par la Lanterne Rouge Dijon sur leur terrain. La fin d'une longue série de victoires pour le leader du top 14, Toulouse, battu à Marseille par Toulon, 25-10. Et puis c'est une propriété de la ville de Paris, la maison de Victor Hugo à Guernesey, rouvre au public après 18 mois de travaux. La météo, des averses à l'est et à l'ouest demain. Entre les deux, un temps nuageux mais sec, de la neige au-dessus de 1000 mètres, température en baisse sur la façade est.
France Inter.
Tous d'accord, les ministres des Affaires étrangères du G7 réunis à Dinard, près de Saint-Malo, se sont dit unanimes face au risque de guerre en Libye, où ne règne pas vraiment la paix d'ailleurs, mais l'offensive lancée par le maréchal Haftar, qui tient l'est du pays, contre la capitale Tripoli, ne peut qu'aggraver la situation. Pas question donc d'accepter une nouvelle escalade militaire pour les pays du G7 qui ont convenu d'utiliser tous les moyens d'influence dont ils disposent pour éviter le pire. Nathanaël Charbonnier.
Le G7 n'a pas toujours une approche commune des dossiers, mais dans le cas de la Libye, il semble vraiment que les 7 ministres des Affaires étrangères ont décidé de parler d'une même voix. Communiqué commun, dans lequel ils exhortent les parties concernées à faire un cessez-le-feu, et notamment le maréchal Haftar. C'est lui qui vient de lancer ses troupes contre Tripoli, et c'est lui qui est montré du doigt. Jean-Yves Le Drian a été clair, le général doit soutenir le processus.
Qu'il soutienne, je le connais très bien, qu'il soutienne le processus mis en œuvre par les Nations Unies. Qu'ils le disent et qu'ils le fassent mettre en œuvre.
Le processus, justement, il est en effet assez simple dans son principe, élaboration d'une constitution et organisation d'élections, et c'est le vœu premier des Libyens, estime Jean-Yves Le Drian.
Le peuple libyen en a, je crois, assez de cette situation de violence qui dure depuis plusieurs années maintenant, et il aspire à une clarification politique. La meilleure preuve, c'est que les Libyens sont très nombreux à s'être inscrits sur les listes électorales afin de pouvoir voter.
Et pour aboutir à ces élections, les 7 ont totalement confiance dans l'action de l'ONU, même les États-Unis, c'est dire. À Dinard, Nathanaël Charbonnier pour France Inter.
La conférence nationale sur la Libye, déjà prévue par l'ONU, est pour l'instant maintenue mi-avril. Pour Moscou, comme pour le voisin du Caire, c'est aux Libyens et à eux seuls de décider de leur avenir. Ce soir, les forces du maréchal Haftar poursuivent leur offensive vers Tripoli, faisant fi des appels des Occidentaux à cesser les hostilités. Des gilets jaunes sur le parvis de la Défense. À Paris, le décor a changé pour ce 21e épisode du mouvement lancé le 17 novembre, mais pas le scénario. Rassemblés ce midi, place de la République, ils ont été quelques centaines à marcher jusqu'à Nanterre sans aucun incident. Le secteur des Champs-Élysées était interdit comme les deux samedis précédents. Mais pour les manifestants qui voulaient aujourd'hui dénoncer l'art de l'optimisation fiscale, le quartier d'affaires de la Défense était tout indiqué. Rémi Brancato, vous les avez suivis. Et vous êtes toujours avec eux au pied de l'Arche.
Oui, ils sont partis de la place de la République dans l'Est parisien, beaucoup plus habitués aux manifestations en début d'après-midi. Dans le calme, un cortège déclaré bon enfant qui a donc rejoint ici le quartier d'affaires de la Défense. Un cortège placé sous le signe de la justice fiscale, c'est le message d'Irène, acheteuse dans une entreprise en Seine-et-Marne.
Moi, j'ai rien contre le fait qu'il y ait des gens riches à partir du moment où tout le monde vit correctement. Moi, je vois mon entreprise, c'est une entreprise qui tourne bien. Ils font pas d'embauche, ils prennent que des mômes stagiaires. Ils sous-payent des mômes à 600 balles par mois, ils les font bosser.
Et cette arrivée sur l'esplanade de la Défense, c'est une image forte. Des gilets jaunes regroupés sous l'arche au pied des tours des grands groupes. Marie Huiban, gilet jaune, mais aussi militante du DAL, le droit au logement, entend dénoncer l'évasion fiscale.
C'est un symbole fort, c'est le symbole de ces grosses sociétés qui ne payent pas forcément leurs impôts ici et qui spéculent sur l'immobilier alors qu'il y a du monde à la rue.
Un mot d'ordre d'un des groupes Facebook des Gilets jaunes relayé par une figure du mouvement, Éric Drouet, croisé ici à l'arrivée.
C'est important de venir ici. Et nous, on suit beaucoup le groupe Opération Spéciale Gilets jaunes, donc c'était de venir ici, quoi, c'est le symbole de l'argent en France, quoi. Ils ont fait Starbucks, ils ont fait Apple, ils ont fait la vente aussi de l'aéroport. On suit leur manifestation. Ouais.
Et le lieu a aussi été choisi parce que les Champs-Élysées leur sont interdits pour ce troisième samedi consécutif. Éric Drouet en a d'ailleurs fait les frais ce matin. Il dit s'être garé, très simplement, comme chaque samedi près des Champs. Et il a écopé d'une amende. Ici, la manifestation est terminée. Quelques tensions ont eu lieu avec les forces de l'ordre déployées en nombre tout autour de l'esplanade.
Rémi Brancato à la Défense avec Christophe Papon. Selon la préfecture de police, 47 personnes ont été interpellées, plus de 10 000 contrôles préventifs effectués et 7 verbalisations prononcées dans le périmètre interdit, notamment donc contre Éric Drouet qui se trouvait avec sa mère effectivement du côté des Champs-Élysées. En région, c'est à Rouen que les Gilets jaunes étaient appelés à se regrouper. Un millier de personnes, dont certains vêtus de noir et dans certaines vêtues de noir et cagoulées, ont défilé dans une ambiance tendue. Même chose à Nantes, Forbach ou Dijon. Dijon où les esprits se sont quelque peu échauffés. La faute aux forces de l'ordre, selon Catherine, gilet jaune de la première heure. Elle est au micro d'Alexandre Berthoud.
Devant Ikea, on s'est fait gazer alors qu'on n'a rien demandé. On marchait tranquillement. Il y avait une gamine, il y avait plein de gosses, de 6-8 ans, les gosses. Donc gazer des gosses, je trouve ça lamentable. Et quand on a voulu repartir, ils étaient de l'autre côté, ils nous ont chargés. D'habitude, on prend un masque et là, puisqu'ils gazent à partir de 5h30-6h, donc là, on a dit, on prend pas de masque, on s'en ira avant d'être gazé. Et là, il gaze, il est 3h30, alors qu'il y a des gosses et des personnes âgées. Donc c'est lamentable. Il y en a ras le bol, là. Ça va finir par mal finir. Je pense que là, j'étais pacifique au début, je suis de moins en moins. Et je pense que beaucoup de personnes sont comme moi.
De vives tensions ont également éclaté cet après-midi au niveau du péage du Boulou dans les Pyrénées-Orientales où les manifestants ont essayé d'investir l'autoroute A9. Les gendarmes ont barricadé le péage à l'aide de véhicules blindés. À Saint-Nazaire, c'est une assemblée des assemblées qu'avaient réuni les gilets jaunes venus de tout le pays pour réfléchir à la suite, notamment à l'éventualité de présenter des listes aux municipales en 2020. En attendant, la suite, ce sera lundi la restitution par le Premier ministre des conclusions du grand débat, en tout cas des demandes exprimées par les Français. Les réponses viendront plus tard d'Emmanuel Macron, peut-être dans le courant de ce mois. Il n'y a rien à en attendre. De toute façon, répète Marine Le Pen, qui voit dans ce grand débat une mesure dilatoire. Le président de la République n'arrivant pas à en sortir, ajoute la présidente du Rassemblement National, il cherche avec ce grand débat à sauter par-dessus les européennes pour priver, dit-elle, les Français d'un vrai débat et d'un vote essentiel. Sur ce point, d'ailleurs, le rendez-vous essentiel du 26 mai, les candidats de la liste emmenée par Raphaël Glucksmann avec le soutien du Parti Socialiste seront d'accord. Ils tenaient aujourd'hui leur première réunion publique de campagne à Toulouse. L'occasion pour la tête de liste Raphaël Glucksmann de rendre hommage à Toulouse et à Jaurès. Et pour Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, de justifier son choix de l'ouverture pour ces européennes. Toulouse, Stéphane Iglesias.
Les militants présents sont plutôt contents que le PS ne soit pas recroquevillé sur son noyau dur de militants, comme le dit lui-même Olivier Faure. Raphaël Glucksmann, notre tête de liste, ne parle pas forcément le PS couramment, ni même la politique couramment. Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Nouvelle Donne Place Publique, défend lui une gauche vivante.
Elle doit avoir un langage amoureux. Elle doit retrouver l'amour de ses causes. Elle doit retrouver l'amour de ses idées. Elle doit retrouver l'amour des défavorisés. Elle doit retrouver l'amour. La gauche, ça peut pas être Euro-RSCG ou KPMG. C'est pas des experts comptables ou des communicants qui vont nous faire retrouver la gauche.
Charline, jeune militante, défend un PS ouvert avec de l'air frais.
On en avait besoin. J'en pense que du positif, c'est une très bonne chose. C'est le renouveau, c'est l'avenir. Et nous, on fait ce que tous les autres ont échoué à faire, c'est-à-dire le rassemblement. Le rassemblement, c'est toujours mieux quand il est plus large. On va au-delà de la vieille maison politique du Parti Socialiste. On ne peut pas faire autrement maintenant. On est obligé de tout changer et c'est une très bonne chose.
En conjuguant Jaurès et Voltaire, Raphaël Glucksmann a emballé la salle en expliquant notamment que la gauche n'était pas morte. Toulouse, Stéphanie Iglesias, France Inter.
Le journal de 19h sur France Inter.
Au Venezuela, le chef de l'opposition, Juan Guaido, mobilise à nouveau ses partisans pour maintenir la pression sur le président Maduro. De nouvelles manifestations sont au programme, notamment à Caracas où, comme dans le reste du pays, la population est confrontée au manque d'eau et d'électricité. Mais de son côté, le pouvoir en place, lui aussi, renforce sa pression sur Juan Guaido en le privant de son immunité parlementaire et en permettant la poursuite d'une procédure pénale engagée contre lui. Difficile d'anticiper les conséquences concrètes de ces décisions dans un pays où plus personne ne reconnaît la légitimité de personne. En attendant, la mobilisation de l'opposition ne semble pas aussi massive que lors des grandes manifestations de janvier et février. À Caracas, notre correspondant Benjamin Delisle.
Les manifestants ont commencé à se retrouver en fin de matinée à Caracas, aux différents points de ralliement. Puis la foule, un peu plus dispersée que d'habitude, a pris la route du siège de Corpoelec, la compagnie nationale d'électricité vénézuélienne. Le but, manifester contre les coupures de courant qui paralysent le pays depuis maintenant un mois et qui entraînent de nombreuses pénuries, notamment d'eau courante. Et paradoxalement, ce sont ces pénuries qui ont poussé beaucoup de Vénézuéliens à rester chez eux plutôt que d'aller manifester aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont voulu profiter de ce samedi ensoleillé pour s'approvisionner en eau et en nourriture en prévision de nouvelles coupures. Beaucoup sont aussi restés chez eux par peur de la répression. De petites manifestations spontanées ces derniers jours ont été sévèrement réprimées, notamment par des collectivos, des paramilitaires qui évoluent hors de tout cadre et qui sont inféodés à Nicolas Maduro. Les manifestants qui marchent aujourd'hui disent n'avoir plus peur, préfèrent marcher et être réprimés plutôt que de rester dans une situation aussi dramatique. Caracas, Benjamin Delisle pour France Inter.
En Allemagne, des milliers de manifestants à Berlin et autres villes contre la folie des loyers et la spéculation immobilière. Dans la capitale allemande où le prix des loyers a doublé en 10 ans, les manifestants pointent du doigt les groupes privés qui ont acheté de nombreux logements en profitant des prix bas à l'époque. Et aujourd'hui, de nombreux locataires ne peuvent plus payer. Leurs associations demandent aux autorités la remunicipalisation d'une partie du parc privé. L'Allemagne où Barack Obama dialoguait tout à l'heure avec des jeunes à Berlin en saluant notamment leur mobilisation pour le climat. Plus tôt vous commencez, mieux c'est, leur a-t-il lancé. L'ancien président américain qui avait signé fin 2015 l'accord de Paris, dénoncé ensuite par son successeur David Philippot à Berlin.
Un accueil de star pour Barack Obama, costume gris anthracite, la main dans la poche. Il déclare d'abord qu'il ne peut pas rester relax en retraite, vu l'état du monde, mais il se dit confiant dans la jeune génération et cite des exemples dont un certain. Un Français qui expédie via Internet des ressources humanitaires après une catastrophe. Puis c'est l'heure des questions. Des dizaines de mains se lèvent du public qui entoure la scène. Racisme, engagement, écologie, une jeune élue verte allemande se plaint des attaques sur les réseaux sociaux et lui demande comment il se protège. Il répond qu'il faut créer des filtres avec ces trolls qui sont souvent des losers cachés dans une cave et ces attaques ne signifient pas que ces jeunes leaders ne sont pas efficaces. Barack Obama ne cite pas une seule fois le nom de Trump, mais s'étonne que son pays ait quitté l'accord de Paris. Un jeune Suédois lui demande de se représenter. « Je ne peux pas. Michel me battrait », dit-il en rigolant. Berlin, David Philippot pour France Inter.
À Hong Kong, plus de 82 kilos de cornes de rhinocéros, c'est le record des saisies depuis 5 ans. Valeur totale, plus de 16 millions de dollars de Hong Kong, près de 2 millions d'euros. Les autorités de l'ancienne colonie britannique avaient déjà annoncé cette année la saisie de 40 kilos de cornes de rhino, mais aussi de plus d'un millier de défenses d'éléphants et plus de 8 tonnes d'écailles de pangolins. Et puis la Belgique, pour un mannequin piece éco-responsable, les autorités de Bruxelles ont réparé les problèmes de tuyauterie du petit bonhomme, vieux de 400 ans, qui continuera d'uriner sans gêne, mais de façon plus écologique. Une gouttière a été installée sous le monument de façon à récupérer les quelques 2500 litres d'eau qu'il rejette chaque jour, soit l'équivalent de ce que consomment 5 ménages bruxellois. Voilà, ça ne se savait pas, mais il y a dû y avoir des fuites.
Le journal de 19h sur France Inter.
En Ligue 1 de football, les Lyonnais ne devaient pas perdre. Ils ont perdu, battu 3-1 sur leur pelouse par la Lanterne Rouge Dijon. Plus qu'une défaite, une humiliation, Valérie Lombardo, hein, même si l'OL reste troisième au classement. Bonjour l'ambiance ce soir dans les vestiaires.
Lyon a peut-être tout perdu en moins d'une semaine. Après une élimination en demi-finale de la Coupe de France contre Rennes mardi, l'OL s'incline face à la Lanterne Rouge de Ligue 1 et a peut-être dit adieu à la seconde place qui offre un billet direct pour la Ligue des Champions. Une semaine noire et un match face à Dijon qui a encore montré beaucoup de fébrilité chez les Lyonnais, qui ont pourtant ouvert le score dès la 37e seconde avant d'être rejoints et puis dépassés par Dijon au bout de 7 minutes de jeu. Dijon, sans victoire depuis le 26 janvier, a certes eu de la réussite, avec notamment un troisième but marqué par Raphaël contre son camp, mais l'OL a déçu. Un nouveau camouflé qui va fragiliser encore un peu plus Bruno Genesio. L'avenir de l'entraîneur lyonnais doit être connu à la fin du championnat, mais ce nouveau revers pourrait précipiter la décision de son président Jean-Michel Aulas. Lyon, distancé toujours ce soir de 4 points par Lille, qui jouera demain après-midi à Reims. Au Groupama Stadium, Valérie Lombardo, France Inter.
Et si Lille perd demain à Reims, le Paris Saint-Germain peut être sacré champion de France dès demain soir au Parc face à Strasbourg. En rugby, il fallait bien que ça s'arrête un jour après 6 mois d'invincibilité en championnat. 14 matchs sans défaite, Toulouse est tombé sur un os cet après-midi au Stade Vélodrome, un os toulonnais, 25 à 10, 3 essais à 1 pour Toulon, qui est pourtant en difficulté dans le top 14, dont Toulouse en revanche est le leader incontesté, mais aujourd'hui rien ne pouvait arrêter les Rouges. Et l'entraîneur des arrières de Toulon, Sébastien Tillousbord, est aux anges au micro de Julien Balidas de France Bleu Occitanie.
On a fait un très bon match dans la stratégie, on s'est très bien adapté aux conditions climatiques. Et donc je suis très content de la performance des joueurs aujourd'hui, surtout à une deuxième mi-temps passée à 14. Je pense que la performance est très belle ce soir. Ça fait du bien, ça fait du bien aux mecs, ça fait plaisir de battre Toulouse. On sait que ça fait, je ne sais plus combien de matchs qu'ils étaient invaincus. Ils ont été se déplacer, ils ont gagné beaucoup de matchs. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est une belle performance et on est content du score. Et comme je disais, en plus, en jouant l'infériorité, c'était vraiment un gros match aujourd'hui.
Mais c'est le Stade toulousain qui reste leader du championnat, bien sûr, et qui jouera les demi-finales de la Coupe d'Europe. Allez, c'est du patrimoine français sur une île britannique. Haute Villa House, la maison de Victor Hugo à Guernesey, a rouvert au public après 18 mois de travaux. Une rénovation de grande ampleur. 4,5 millions, financée aux trois quarts par la Fondation Pinault, et pour 1 million d'euros par la ville de Paris, qui est la propriétaire des lieux depuis 1927. Et ça, le Brexit n'y changera rien.
La maison de Victor Hugo surplombe le port de Guernesey, massive et tranquille, enfin pas tout à fait. Des élus, une centaine de journalistes français et étrangers, tous débarqués par avion ou par bateau, ont pris d'assaut en quelques minutes Hauteville House, foulant les moquettes restituées, admirant les tapisseries restaurées et les meubles réparés. Du salon rouge à la bibliothèque, en passant par le jardin d'hiver, on retrouve, les yeux tournés vers la mer, l'architecte en chef des monuments historiques, Riccardo Giordano.
Il voulait mettre à l'œuvre absolument ce qu'il avait conçu, donc ça a donné un côté technique un tout petit peu bricolée avec lequel on a dû composer.
Et pour cela, il y a eu une entreprise, Aubert Labansa de Coutances, Julien Montier, le patron.
C'est un chantier assez difficile, on va dire, en termes d'organisation, puisqu'on est quand même assez loin de chez nous et puis les accès sont pas si simples, mais globalement, ça s'est assez bien passé.
Sans François Pinault, on n'aurait jamais pu le faire.
Anne Hidalgo, maire de Paris, et François Pinault, le mécène, qui a mis plus de 3 millions d'euros sur la table pour ses travaux.
Il avait ce qui manque beaucoup aujourd'hui, quelquefois, aux hommes politiques. C'était un grand bonhomme et je pense qu'il aurait pu être breton parce que son père était militaire. Et aller de garnison en garnison. Mais je crois qu'il aurait pu finir à Saint-Malo, ça aurait été parfait, parce que d'ici, vous voyez les côtes bretonnes.
Entre les murs d'Hauteville House, Victor Hugo n'était pas seul, mais seul lui a bâti cette maison. Patrimoine français exilé, mais ô combien aimé.
Et jusqu'à sa fermeture l'année dernière, Hauteville House accueillait chaque année 20 000 visiteurs d'avril à septembre. Pour terminer, simple rappel, un téléphone, le 110, une adresse mail, sidaction.org pour la recherche et le soutien aux malades du sida. Plus de 170 000 personnes qui vivent avec le VIH en France, où 6 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Le sida qui continue à tuer 1 million de personnes tous les ans dans le monde. La recherche a besoin de nous tous. Le Sidaction, c'est jusqu'à demain soir. On peut donner au 110 jusqu'au 22 avril, le temps.
La météo avec Gauthier, la marque française de mobilier contemporain. Et pour trouver le mobilier de vos rêves, rendez-vous en magasin et sur gauthier.fr.
Jean-Michel Golinski.
Des pluies ou des averses à l'est et à l'ouest, tandis qu'entre les deux, sur un axe Normandie-Centre-Golfe du Lion, malgré les nuages, le temps va généralement rester sec, avec tout de même parfois quelques gouttes possibles en matinée du Golfe du Lion au Massif central. Sur la façade atlantique, les averses ponctuées de coups de tonnerre, déjà en action au réveil dans le quart sud-ouest, vont gagner vers la Bretagne en journée. Près de la Belgique et du Grand Est à la Corse, le ciel incertain sera porteur d'ondées parfois orageuses l'après-midi, notamment sur les Hauts-de-France et la Provence. Notez qu'il va neiger à partir de 1000 mètres sur les Alpes, les Pyrénées et le sud du Massif central, avec des températures de 2 à 7 degrés le matin. L'après-midi, les valeurs vont perdre par rapport à aujourd'hui, du Grand Est à Rhône-Alpes. Il fera 11 à Dijon et Mulhouse, 13 à Lyon, contre 15 à 17 degrés sur les autres régions.